The United States military began major combat operations in Iran.
La première.
Tous ceux qui veulent devenir chef, ils finissent morts.
Les clés. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei est mort.
Ils ont eu Khamenei. Ils l'ont tué.
Arnaud Roysson.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode où nous allons décrypter comment la guerre en Iran est vécue aux États-Unis. On sait que c'est Donald Trump aux côtés de Benjamin Netanyahou qui a décidé de déclencher cette guerre, mais sans qu'un débat politique soit mené en amont sur l'opportunité de cette intervention. On sait aussi que la perspective d'un conflit qui pourrait durer et s'enliser inquiète même dans le camp des Trumpistes. Tout cela dans un contexte très délicat sur le plan de la politique intérieure à 8 mois des élections de mi-mandat. Alors on va prendre le temps d'analyser tout ça en commençant par revenir sur les mots de Donald Trump autour de cette guerre.
La première, les clés.
The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
28 février, il fait encore nuit aux États-Unis lorsque Donald Trump publie cette vidéo sur son réseau Truth Social. Il y annonce le début des frappes en Iran avec force superlative, comme à son habitude, et il justifie ces frappes en expliquant que l'Iran est sur le point de se doter de l'arme atomique, ce qui fait peser un risque sur le monde et donc notamment aussi sur les États-Unis. D'ailleurs, à destination du peuple américain, il ajoute encore cette précision.
Mon administration a pris toutes les précautions pour minimiser les risques pour le personnel américain dans la région. Mais combien même, et je ne fais pas cette précision à la légère, le régime iranien cherche à tuer. La vie de courageux héros américains sera sans doute perdue. Nous aurons peut-être des victimes, comme cela arrive souvent en cas de guerre. Mais nous n'agissons pas pour aujourd'hui, nous agissons pour le futur, et c'est une noble mission.
48 heures plus tard, on apprendra d'ailleurs la mort des premiers militaires américains. En tout, sur les 10 premiers jours de guerre, 7 vont perdre la vie suite aux ripostes iraniennes dans les pays du Golfe. Des pertes évidemment sans commune mesure avec les milliers de morts en Iran et au Liban, mais qui forcément frappent l'opinion publique aux États-Unis. Au premier jour de la guerre, Donald Trump tente alors de rassurer. C'est une intervention par le ciel qui ne devrait pas durer plus de 4 semaines, explique-t-il. Et il semble écarter l'idée d'envoyer des troupes au sol, expliquant dans une interview que ce serait une perte de temps, que ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, ce samedi 7 mars, à bord de son avion Air Force One, quand un journaliste lui repose cette même question de l'intervention de troupes au sol, la tonalité de sa réponse est assez différente. Jugez plutôt.
Dans quelles circonstances envoyez-vous des troupes au sol en Iran ?
Je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Je ne vais pas y répondre. Est-ce que ça pourrait avoir lieu ? Il faudrait de très bonnes raisons. Et je dirais que même si nous le faisons, les Iraniens seraient tellement décimés qu'ils ne pourraient plus combattre sur le terrain.
Mais est-ce que vous n'aurez pas besoin de troupes au sol pour aller sécuriser les stocks d'uranium enrichi sur les sites nucléaires ?
Je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais on a tout détruit. Les Iraniens n'ont pas réussi leurs objectifs d'enrichissement. Et peut-être qu'on enverra des troupes. Ça pourrait être super, mais pour le moment, nous les décimons.
Alors, quelle est la stratégie et jusqu'à quel point a-t-elle été pensée par un président qui a fait campagne jusque-là en dénonçant les guerres sans fin de ses prédécesseurs et en expliquant que lui voulait arrêter des guerres, faire la paix plutôt que d'ouvrir de nouveaux fronts. L'opposition démocrate n'a évidemment pas manqué de l'attaquer sur ce point ces derniers jours.
Donald Trump vient de lancer une opération à grande échelle chez l'un de nos plus féroces adversaires, sans un plan, sans objectif final et sans autorisation du Congrès.
Pas de débat, en effet, à ce stade au Congrès. C'est une décision de Donald Trump et de son entourage direct. Mais dans l'opinion, une majorité d'Américains semble désapprouver cette intervention. À l'intérieur même du clan MAGA, le noyau dur du Trumpisme, l'intervention divise entre les faucons et les isolationnistes. D'autant que cette intervention, qui pourrait finalement peut-être être plus longue et coûteuse que prévu, intervient dans un moment politiquement délicat pour Trump sur la scène intérieure, à 8 mois d'élection capitale. C'est tout cela que nous allons prendre le temps d'explorer à présent. Et avec nous pour cela, il y a notre correspondante aux États-Unis, Aviva Fried. Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors on va parler de politique américaine avec vous dans un petit instant. Mais avant, première question, comment est-ce que vous décririez la réaction de la société américaine aujourd'hui face à cette guerre, une dizaine de jours donc après son déclenchement? Comment est-ce que les Américains voient ces frappes en Iran et la perspective d'une guerre qui semble peut-être moins simple que ce que certains discours avaient bien voulu présenter au départ?
Alors je dirais qu'on est un peu sur la division habituelle de la société américaine, avec d'un côté les républicains, de l'autre côté les démocrates, sachant que 84% des républicains soutiennent cette intervention et 86% des démocrates sont contre. Donc vous voyez, c'est quand même assez équilibré. Mais je dirais qu'il y a plutôt un sentiment d'attente. On ne sait pas ce qui se passe ici. Vous l'avez très bien résumé dans le sujet qui a précédé. Il n'y a pas de plan. En fait, les Américains ne sont pas au courant de ce qui va se passer, ne savent pas quel est l'avenir de cette guerre, ne savent pas du tout s'il y a une stratégie quelconque. Donc, on est plutôt ici dans l'attente. 56% des Américains globalement désapprouvent l'intervention sans forcément s'opposer à un changement de régime en Iran. Donc il y a toujours aussi cette espèce de nuance, c'est-à-dire que beaucoup d'Américains ici se réjouissent de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, mais ne souhaitent pas voir les États-Unis s'engager encore dans un conflit long comme l'a été le conflit en Irak, comme l'a été le conflit en Afghanistan. Donc ici, je dirais, plutôt que d'avoir vraiment des réactions viscérales, comme on a pu le voir par exemple lors de la guerre israélienne à Gaza, où il y avait des manifestations absolument tous les jours avec des soutiens des Palestiniens qui étaient dans les rues. Ici, on est plutôt dans l'attente. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas quelle est la stratégie. Et on est, je dois dire, plutôt inquiet. Ici, les Américains sont plutôt inquiets de l'avenir.
Dans l'expectative et plutôt inquiet, donc. Ceci dit, vous l'avez pointé, Aviva, ce qui est très particulier, c'est que cette guerre, elle a été décidée par Donald Trump et par son entourage, un président qui a construit une partie de sa campagne, de son succès, sur le fait que lui, il allait en finir avec ce qu'il appelait les « endless wars », donc ces guerres qui n'en finissent pas, et il pointait le cas de l'Irak, de l'Afghanistan. Or, ici, on commence à voir que l'idée d'une guerre éclair juste par le ciel pour aller renverser des dirigeants, et puis que le peuple iranien prendrait son destin en main, qui était le récit qui a été servi un petit peu au début, semble tout à fait hypothétique, d'autant plus qu'on voit que le régime tient toujours aujourd'hui, même s'il est très certainement fragilisé, qu'il vient d'installer un nouveau guide suprême à sa tête. Et donc ce spectre d'une guerre qui pourrait durer se réinstalle tout doucement aux États-Unis. Et ça, pour Donald Trump, c'est potentiellement un problème, parce que ça va à contresens, non, du discours que lui-même a toujours servi à son électorat et aux Américains de manière générale.
Alors, ça va à contresens, je nuancerai peut-être un tout petit peu. L'Iran, pour Donald Trump, ça a, depuis son premier mandat, toujours été une constante. Il n'y en a pas beaucoup dans les décisions de Donald Trump. Mais l'Iran, depuis le début, il dit qu'il veut se débarrasser du régime des Mollahs. Surtout, il ne veut pas d'un Iran nucléaire. Ça a toujours été quelque chose qu'il a dit depuis le début. Alors oui, cette constante est là, mais effectivement, vous l'avez pointé, hein, Donald Trump s'est aussi fait élire en disant qu'il ne voulait pas engager les États-Unis dans des guerres longues et coûteuses. Il a même, avec Donald Trump, il y a toujours des tweets qu'on peut ressortir. Il avait même tweeté à l'époque de la présidence Obama, quand on fait une guerre, c'est qu'on a quelque chose à cacher à l'intérieur. On remarque un peu l'ironie du jour. en déclenchant ce conflit, eh bien, il va effectivement à l'encontre de ses promesses de campagne et à l'encontre, finalement, de son slogan « America first », l'Amérique d'abord. Ce que ne manque pas de pointer du doigt certains MAGA, hein, de sa base, qui, eux, sont absolument contre ce genre d'intervention, puisque, vous l'avez rappelé, ils sont isolationnistes, ils ne souhaitent pas que les États-Unis, eh bien, soient, comme on le dit souvent, le gendarme du monde. Donc oui, il y a ce décalage, il y a ce risque de s'aliéner une partie de la base, un risque qui, pour l'instant, quand même, soyons honnêtes, n'est pas encore matérialisé. Hein. Il s'agit seulement de quelques MAGA qui se sont séparés de Donald Trump. Pour l'instant, 90% de la base, selon un récent sondage, 90% des MAGA soutiennent quand même Donald Trump dans cette intervention.
Alors, certains ont quand même remarqué que J.D. Vance, par exemple, connu pour être plutôt isolationniste, ne s'était pas du tout exprimé durant les 72 premières heures. Puis quand il s'est exprimé, il a surtout pointé le fait que c'était une intervention sur le nucléaire iranien pour défendre l'Amérique, mais que l'idée n'était pas de lancer une guerre de longue durée. Est-ce que J.D. Vance, en particulier, par ce qu'il dit et peut-être surtout par ce qu'il ne dit pas, prend quelques distance là avec Donald Trump dans ce dossier très particulier de l'intervention en Iran?
Alors je dirais qu'il est plutôt là dans son rôle de vice-président, son rôle traditionnel de vice-président qui est lorsqu'il y a une crise, eh bien on laisse le président sur le devant de la scène. C'est pas son heure actuellement. Alors effectivement, pour lui, le fait d'être un petit peu en retrait, eh bien ça peut être aussi un avantage hein, pour son avenir, puisqu'il est quand même l'héritier présumé du Trumpiste. Si on va dans la logique des choses, c'est lui qui devrait se présenter en 2028. On en est encore loin et on n'en est pas là. Donc le fait de prendre du recul, pour lui, ça permet de préserver un capital politique et de laisser la vedette à Donald Trump. Celui qu'on a beaucoup vu en revanche et qui gagne aussi des points en politique, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio, qui lui est sur tous les fronts actuellement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour lui? On le présente souvent comme un possible colistier de J.D. Vance. Donc avec un secrétaire d'État très présent, un vice-président un peu moins présent, ça permet de préserver une dynamique pour 2028 et de laisser la vedette à Donald Trump, ce qui est finalement le plus important. Puisque pour Donald Trump, eh bien, c'est lui qu'on doit voir et c'est tout.
Un mot quand même alors sur le contexte et les mécanismes de décision politique. Ça paraît très particulier, vu d'ici, à Aviva Fried, le fait qu'il n'y ait pas une décision du Congrès et même pas un débat du Congrès en amont sur l'opportunité de cette intervention. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Donald Trump puisse pratiquement engager seul son pays dans une guerre, comme il le fait ici en Iran, sans que ça ne doive faire l'objet de vote au niveau des deux assemblées américaines?
Alors oui, il y a la théorie. Hein. En théorie, c'est le Congrès qui déclare la guerre. C'est l'un des pouvoirs donnés par la Constitution au Congrès. Mais ensuite, il y a la pratique et les précédents. Ce n'est pas la première fois qu'un président américain engage ainsi son pays dans des frappes. Il y a la petite nuance entre frappe du président et une vraie déclaration de guerre à l'ancienne. Il y a un précédent, ben c'est Obama, hein, de Barack Obama en Libye, qui avait fait la même chose, d'ailleurs décrié par Donald Trump à l'époque. Donc il y a effectivement cette nuance entre frappe et guerre, mais Donald Trump lui-même a tout de suite prononcé le mot de guerre dans son allocution sur Truth Social le 28 février annonçant les frappes en Iran, ce qui veut dire que le Congrès lui-même aimerait bien se saisir de l'opportunité pour récupérer son pouvoir de guerre. Il a tenté de le faire la semaine dernière avec un vote sur les pouvoirs de guerre, une motion qui a été présentée au Sénat et à la Chambre des représentants et qui a été rejetée. N'oublions pas que les républicains sont majoritaires et donc la motion redonnant le pouvoir de guerre dans ce cas particulier, en tout cas un contrôle sur les frappes de Donald Trump, eh bien a été rejetée. Quelques républicains ont fait défection, mais des démocrates ont aussi voté contre la motion. Donc au total, eh bien, il y a eu les voix nécessaires pour rejeter. Donc Donald Trump, pour l'instant, a toute latitude pour continuer avec l'aval du Congrès. Mais ce qui est sûr, c'est que si les frappes doivent se poursuivre, eh bien, le débat sera relancé et le Congrès pourrait revoter et décider de se saisir de l'autorisation de guerre et donc pourrait, en théorie évidemment, ordonner à Donald Trump d'arrêter toutes les frappes ou en tout cas réévaluer un budget qui va être nécessairement augmenté pour nourrir ces frappes, nourrir cette intervention militaire.
Et tout cela, donc, évidemment, peut changer au fil de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, plus cette guerre pourrait durer, plus les pertes américaines pourraient être aussi importantes, plus le coût de cette guerre pourrait s'élever aussi. Tout cela, on l'imagine, peut faire évoluer le débat politique, le climat aussi dans l'opinion publique américaine. D'autant plus que tout ça s'inscrit dans un moment qui est délicat sur le plan intérieur pour Donald Trump, et on va se pencher là-dessus pour suivre et rappeler peut-être d'abord avec Sarah Pousset quelques-unes des difficultés importantes que connaît Donald Trump aujourd'hui, à commencer par un très lourd revers sur sa politique de droits de douane. On voit ça donc avec Sarah Pousset.
Le 20 février, la Cour suprême américaine a annulé les droits de douane de Donald Trump. Elle a jugé que le président américain avait outrepassé ses pouvoirs. En effet, pour que l'exécutif américain puisse agir dans le domaine économique sans l'aval du Congrès, il faut que le pays soit dans une situation économique d'urgence. Or, la Cour suprême a jugé que ce n'était pas le cas. La Cour du commerce international se penche désormais sur les dossiers de remboursement. Le Trésor américain a en effet perçu 130 à 175 milliards de dollars grâce à ses droits indus. C'est un revers historique pour Donald Trump, puisque ses droits de douane étaient au centre de sa politique économique. Coup dur aussi puisque certains juges conservateurs qui l'a nommé ont voté en faveur de cette décision. Et puis cette annulation arrive à un moment où la popularité du président est en baisse. La plupart des Américains pensent qu'il a aggravé la situation économique depuis son arrivée au pouvoir et qu'il ne se soucie pas de leurs problèmes du quotidien. Or, les Américains sont extrêmement préoccupés par leur pouvoir d'achat qui ne s'améliore pas. Même au sein du clan MAGA, les critiques fusent concernant les interventions en Iran ou au Venezuela de la part d'un président qui avait pourtant promis de s'intéresser aux problèmes intérieurs du pays. Ajoutons encore sur les épaules de Donald Trump la débâcle de Minneapolis, où deux citoyens américains ont été abattus par ICE, ce qui a finalement mené au retrait de la police de l'immigration dans la région. Et puis bien sûr aussi les accusations de dissimulation de documents dans l'affaire Epstein. Même si une loi de novembre a autorisé la diffusion des éléments du dossier, plusieurs médias accusent le gouvernement américain de cacher les documents concernant Donald Trump. Le président américain vit donc une période compliquée, à 8 mois des élections de mi-mandat qui pourraient bien redessiner l'ampleur de sa marge de manœuvre.
Et on rappelle que ça se sera pour novembre prochain, ces élections de mi-mandat. Aviva Fried, est-ce qu'on doit considérer, si on met de côté le sort de la guerre en Iran, que tout cela s'est déclenché à un moment où on avait un Donald Trump fragilisé sur le plan de la scène intérieure, quand on voit que des Américains disent que ils ont l'impression que leur situation socio-économique s'aggrave alors que la promesse de Donald Trump était justement de faire face à cet enjeu. C'est un vrai problème politique aujourd'hui pour Donald Trump qui se pose.
Oui, je dirais que c'est probablement le problème politique majeur pour Donald Trump. Les Américains n'arrivent pas à faire face à l'augmentation du coût de la vie et c'est un président qui s'est fait élire en promettant justement de faire baisser le prix de l'essence, de faire baisser le prix des denrées alimentaires, ce qui n'est pas le cas. Alors le prix de l'essence a baissé en partie au début de l'année et bien sûr il flambe à nouveau depuis l'intervention en Iran. On est par exemple passé en moyenne de 2,98 $ le gallon, c'est-à-dire un petit peu moins de 4 litres, donc 2,98 $ à 3,41 $ en même pas une semaine d'intervention, donc une augmentation de 14%. Ce sont des prix qui peuvent paraître peut-être encore bas vu de Belgique, mais ici, ce sont des prix très élevés. Les Américains qui utilisent leur voiture en permanence, c'est un gouffre financier. Donc c'est quelque chose qui est avec une répercussion immédiate. Les Américains ne peuvent pas acheter d'essence, ils sont pas contents et ils désapprouvent la politique de Donald Trump. Les prix au supermarché ont également augmenté énormément. Ça aussi, c'est un problème pour Donald Trump. Donc tout cela peut mettre le président américain dans l'embarras. Surtout, vous l'avez dit, si le conflit se prolonge, eh bien cela va faire encore plus basculer la situation économique, sachant que pour l'instant, eh bien on a calculé que le coût de la guerre, le coût des frappes américaines s'élevait à quasiment 900 millions de dollars par jour. C'est énorme. Quand on annonce ce genre de chiffres à des Américains qui ont du mal à boucler leur fin de mois, eh bien forcément, ils ne sont pas très contents.
Et à cela, on pourrait ajouter la publication récente de chiffres décevants sur le taux d'emploi aux États-Unis et les craintes qui se précisent du côté des marchés financiers. Jusqu'ici, ils tiennent bon, mais ils pourraient, selon plusieurs analystes, dévisser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en raison de la guerre et de la hausse des prix du pétrole. Or, les marchés d'actions aux États-Unis pèsent aussi dans le budget de nombre de ménages de la classe moyenne qui mettent une partie importante de leur épargne en actions, notamment via les fonds de pension. Une chute des marchés financiers pourrait donc ajouter une grosse tache sombre au tableau déjà compliqué pour Donald Trump. À 8 mois des élections de mi-mandat, est-ce à dire qu'il risque de perdre sa majorité au Congrès en novembre ? Notre correspondante Aviva Fried incite sur ce point à être prudent.
On ne peut parler que de l'instant T, c'est-à-dire si maintenant les élections avaient lieu aujourd'hui, il perdrait au moins la Chambre des représentants, peut-être le Sénat. Donc oui, à cause de la situation économique, à cause effectivement de l'intervention d'ICE, également de toute cette séquence Minneapolis qui a été désastreuse pour son image, qui l'a extrêmement embarrassé, ce que Donald Trump déteste par-dessus tout, hein, il déteste être embarrassé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a renvoyé sa secrétaire d'État au département intérieur, Christine Noem, le Homeland Security, non pas parce qu'il y a eu 2 citoyens américains qui sont morts en tant que tels, mais simplement parce que cela l'a embarrassé, cela l'a mis dans l'embarras vis-à-vis des Américains. Donc oui, si les élections avaient lieu maintenant, je dirais que ce serait, non pas la fin du mandat Trump, mais en tout cas, il serait bloqué dans tout ce qu'il veut faire, dans toutes ses politiques, puisque le Congrès serait un contrepoids majeur. Sauf qu'aux États-Unis, tout va extrêmement vite. On ne peut pas prédire les élections 8 mois à l'avance, c'est impossible. Je vous dirais même qu'on ne peut pas prédire les élections 2 semaines à l'avance ici. C'est vraiment toujours à la dernière minute que les Américains se décident. S'ils vous disent « oui, on votera démocrate au mois de mars », ils peuvent tout à fait décider de voter républicain au mois de novembre parce que dans les 2 semaines qui vont précéder l'élection, eh bien la situation économique va s'arranger, il va y avoir peut-être une victoire ou quelque chose qui va se passer dans le monde. Il va y avoir des décisions qui seront prises, qui vont les satisfaire. Donc, c'est très, très difficile de pouvoir prédire à l'avance ce qui va se passer aux élections de mi-mandat. Mais oui, à l'instant T, aujourd'hui, Donald Trump est en difficulté. Il faut qu'il redresse la barre. Il faut qu'il donne aux Américains ce pour quoi ils ont voté, c'est-à-dire une situation économique améliorée au quotidien et surtout un apaisement dans le pays qui est, depuis son élection, assez agité.
À voir donc si l'animal politique qu'est Donald Trump et sa capacité à bousculer les campagnes électorales et à y imposer son récit pourra cette fois encore trouver les moyens d'inverser la donne. Il avait par exemple évoqué l'idée de verser dans quelques mois un chèque de $2000 à tous les Américains sauf les plus hauts revenus, sorte de dividende de sa politique de droits de douane présentée comme un grand succès. Un geste qui semblait déjà difficile à mettre en œuvre et qui semble l'être encore plus depuis que ces droits de douane ont été recalés par la Cour suprême. L'enjeu aujourd'hui étant plutôt de savoir si les États-Unis ne vont pas devoir rembourser les droits de douane qu'ils ont déjà perçus. Sans compter le spectre de l'affaire Epstein aussi, où l'administration Trump est accusée d'avoir voulu cacher des documents compromettants pour le président au point de jeter le trouble dans la frange complotistes qui jusqu'ici soutenaient Donald Trump. Bref, les vents contraires se multiplient pour le président américain, mais comme le disait bien Aviva Fried, 8 mois, c'est une éternité en politique et encore plus dans les États-Unis de Donald Trump. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Clés pour tenter d'y voir clair. Merci à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous écrire pour, par exemple, nous suggérer d'autres questions à creuser dans les clés, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, lesclés@rtbf.be.